États, les États de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédonces petites bourgeoises de la bonne santé.
Tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les...
Non.
Mais que diable allait-il faire dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Y avait-il quoi d'autre problème?
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera racontée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois de novembre de Scène de vie, vie de scène, l'émission qui prend son temps en coproduction entre le Tangramme et Principe Actif. Bonjour Cécile, bonjour Nathalie.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Alors aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière tout de même, Nathalie.
Oui, pour notre émission de novembre, nous avons installé nos studios en extérieur et nous nous trouvons actuellement au musée d'art et d'histoire archéologique d'Évreux et plus précisément dans la crypte qui accueille les salles archéologiques dans lesquelles un nouvel espace est dédié aux enfants et aux familles et notamment sur le mur rempart gallo-romain. C'est là que nous avons décidé d'aller à la rencontre d'une partie des membres de l'équipe pour nous ouvrir et vous ouvrir radiophoniquement les portes de ce musée. Alors, nous avons à nos micros et pendant une heure, Florence Calame-Levert, conservateur du patrimoine et directrice du musée d'Évreux. Bonjour Florence.
Bonjour.
Nous avons également à nos micros Elie Rafovitch, directeur adjoint et responsable des collections archéologiques du musée. Bonjour Elie.
Bonjour.
Et Anne Mulot-Ricoire, responsable du service des publics.
Bonjour.
Bonjour Anne. Et bien sûr, l'artiste Michel Aubry, dont l'exposition La Grande Illusion, 5 propositions de votre travail, sera présentée et inaugurée demain, samedi 10 novembre, ici même. Bonjour Michel Aubry.
Bonjour.
Et bien voilà, c'est un plateau extérieur comme nous aimons les faire dans notre émission. Et bien tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut développer les sujets?
Alors tout à fait, moi dans cette émission nous aborderons tout d'abord la partie salle archéo, on l'a abordé tout au début, nous sommes invités dans cette salle archéo et ça mérite qu'on y fasse un petit tour parce que nous le savons, elle a été réouverte ce mois de septembre, nous aurons l'occasion d'en parler un petit peu. Forcément une fois qu'on est dans une salle où tout un tas de manipulations s'ouvrent à nous, aux familles et aux visiteurs, nous aborderons forcément cette question de médiation culturelle, peut-être un mot barbare, allez savoir. En tout cas, nous explorons cette thématique, bien entendu. Nous parlerons également de la grande illusion, Nathalie, qui va prendre une bonne part de cette émission. Et puis, nous échangerons autour des collections, du fonctionnement et un petit peu de tout ce qu'on peut retrouver dans ce musée. Je rappelle tout de même, en début d'émission, Nathalie, tu le précisais, que nous ouvrions radiophoniquement les portes du musée sur le temps du midi. Nous rappelons quand même que le musée est ouvert réellement pour le public tout au long de la semaine. Et je le précise, l'entrée étant gratuite, il serait bien dommage de s'en priver. Par expérience, je sais que parfois, même une promenade d'un quart d'heure ou de 20 minutes dans le musée, eh ben, ça peut être sympa. Vous voulez réagir peut-être, Florence? Là, je vous vois acquiescer bout de table.
Faire des gestes, tout simplement une minute d'un quart d'heure, mais aussi pour aller voir une œuvre que l'on aime, et peut-être bien aussi venir un quart d'heure le matin, revenir l'après-midi, revenir le lendemain. Et c'est vrai que lorsqu'on se balade dans les salles, on voit des visiteurs qui sont extrêmement fidèles et qui sont attachés au musée et qui viennent et reviennent.
C'est ça, c'est un lieu de vie aussi, un musée, c'est pas que un lieu sous vitrine, c'est un lieu de vie avant tout. On aura l'occasion de développer aussi ce qu'on entend par un musée et le musée d'Évreux en particulier durant cette émission. J'avais envie de revenir deux petites secondes quand même sur cette salle archéo qui est j'allais dire toute fraîche, toute neuve, non. Elle a eu d'autres utilisations, on l'a vu dans d'autres configurations. Aujourd'hui, elle est très spacieuse, cette salle archéo qui est en sous-sol du musée. À quoi est-elle destinée, cette salle, pour les auditeurs qui ne voient pas toutes ces briques autour de nous, ces livres et puis ces espaces d'utilisation? À quoi elle est destinée, cette salle?
Alors, la salle archéologique du musée d'Evreux a fermé en 2016, début de l'année 2016. On en a rouvert une partie au mois de juin de cette année. Une partie qui est localisée à l'entrée de la salle et où on propose des expositions qui nous permettent de mettre en valeur nos très riches collections archéologiques. Et le reste de la salle a été réouvert au mois de septembre dernier. Et on a décidé d'y installer toute une série d'activités de médiation culturelle autour de l'archéologie. D'abord, au sujet du rempart, évidemment, ce qui est le vestige antique le plus visible de la ville.
Oui, je précise pour nos auditeurs, dans la salle dans laquelle nous nous trouvons, nous avons le mur rempart gallo-romain à vue directe, présent et qui est majoritairement présent dans cette salle. Donc c'est une œuvre concrète.
Tout à fait concrète. Dans la salle, on peut le voir sur quasiment 60 mètres de long. C'est peut-être l'endroit d'Evreux où on le voit le mieux, on peut le mieux l'apprécier. On peut le voir aussi le long de Liton, mais effectivement, c'est dans la salle archéologique du musée d'Evreux qu'on le voit le mieux, qu'on peut le mieux en profiter.
Ça fait clairement aussi une passerelle il répond à ce mur ultra moderne qui est de l'autre côté. Ça fait une passerelle aussi dans le temps, c'est ce qui est aussi un peu l'objet du travail, j'imagine, entre des œuvres anciennes ou notamment tout le patrimoine et en particulier gallo-romain sur Évreux, et puis finalement le concret, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il n'y a pas forcément un point d'interrogation, mais en tout cas, c'était moi ce que ça me renvoyait très directement, finalement. Le patrimoine, oui, mais le patrimoine d'aujourd'hui.
Oui, c'était très audacieux dans les années 80, la conservation Gérard Guillochène, à l'époque qui était conservateur et directeur du musée, et Dominique Cliquet, qui était responsable des collections archéologiques, ont souhaité révéler ce mur dans son élévation originelle, en fait, du IIIe siècle. Et on le voit. On le voit merveilleusement encore aujourd'hui. Et l'idée, c'était de présenter les collections en regard de ce mur. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y avait un geste architectural extrêmement audacieux, un geste patrimonial très novateur à l'époque. Et on voit aujourd'hui cette architecture-là très années 80, très marquée années 80. Et c'est vrai que quand je suis arrivée ici il y a 6 ans, je trouvais ça historiquement marqué années 80, mais il y avait peut-être un côté péjoratif dans mon regard. Et je trouve qu'aujourd'hui, parce que nos regards évoluent, et le regard que je porte sur cette architecture des années 80 a évolué, et je pense que celui du visiteur aussi.
C'est ce lien aussi de rendre accessible, enfin peut-être aussi de désacraliser cette notion de patrimoine, où on pourrait se dire que cette notion, toujours, moi j'ai cette idée alors très fausse, et je le sais bien, de ce patrimoine sous verre un petit peu sur lequel on qui serait précieux, enfin ce côté, oui, précieux, inaccessible.
Le patrimoine ne mord pas, vous êtes les bienvenus, vraiment, il est doux et très agréable.
Oui,
bienveillant.
Pour décrire la salle où nous sommes, et j'invite nos auditeurs à pousser la porte après, mais c'est vrai que nous n'avons aucune vitrine, nous avons un espace libre, c'est un vrai espace de circulation, et nous avons des objets proposés à la manipulation, ou des espaces de pause, de lecture, voilà. Donc en fait, on est vraiment dans une disposition et un aménagement, une scénographie de cette pièce qui est proprement pour le public, vraiment. Et là, je me tourne vers Anne.
Donc l'idée, effectivement, c'était de permettre au public de s'approprier ce mur, qui, donc, on l'a bien compris, occupe une part importante de la salle. Et l'idée, c'était vraiment de donner la possibilité aux gens de regarder ce mur, mais d'aller au-delà de l'observation, c'est de le comprendre, en fait, et de se l'approprier. Donc on a conçu différents espaces. Donc il y a effectivement un espace où on peut se poser, prendre un livre et plonger dans la culture de l'Antiquité gallo-romaine. Et puis après, on décline. Donc, on a des espaces qui sont vraiment adaptés aux plus jeunes avec des blocs de construction. Donc là, on doit reconstruire son mur. Ensuite, on a un espace autour des matériaux. Donc, on peut le toucher. Et là, voilà, l'idée, c'est aussi de proposer une nouvelle expérience du lieu. Donc, c'est tout ce que permet ce nouvel espace au sein du musée.
Nous allons justement développer cette notion de médiation culturelle qui peut paraître, de médiation tout court d'ailleurs, qui peut paraître peut-être un peu barbare pour les non-avertis. On y revient juste dans un instant avec vous, Anne, justement, après une pause musicale, si vous le voulez bien, l'ami Damien.
No software, no key to understand why they're forced to live on the knees. Passing degrees, money is success, counting on a bank account. It's suspect on the streets. I tell you the world is yours, but when it rains it pours. The clock is ticking and your time is tight. Anyway, why bother, cause your life is light, right? Short days, long nights in my ears, always smoking on sight of the blaze. Baby would like becoming someone to exist, but she's just another number on the list. People get what I deserve one way or another. I'm just too poor to wonder. Spend the summer under rain and thunder. Breathing means digging 6 feet under. Yo, I wanna know now, before it all falls down. I wanna know how to defeat the plan. I wanna know now, before it all falls down. I wanna know how to defeat the plan. You don't get accused where you're coming from. You can only try to fathom the outcome. God only knows if it's real or fake, if there is a difference to be made. Probably in pain, but that's the purpose of the game. I still didn't find nobody to blame. Oh, what a shame, you think we're all the same. I am nothing like these damn lame brains. You gotta learn, know and then apply. You don't want good thing to pass you by. Stand up, all good night. People open your minds, revolution won't be televised. Doubt is the only certainty, and just like to question me. Emptying a bag of OG. From life to death, the world will act in your stead. Trust yourself, fear could be your worst threat, God. I wanna know now, before it all falls down. I wanna know how to defeat the plan. I wanna know now, before it all falls down. I wanna know how to defeat the plan. Check. Before it all falls down, I wanna know how to defeat the plan.
MC Agora and the Mumph Connection, Dark Plans.
Aujourd'hui, on parle trop souvent de son tracteur aux paysans, de ses voitures aux garagistes ou de ses machines à l'ingénieur. Pour lutter contre cette routine, il est inutile de rechercher l'aventure dans l'exotisme du bout du monde. Il suffit simplement d'une conversation insolite où l'on oublie la spécialité de chacun, l'étiquette du métier, pour retrouver l'homme avec ses rêves, ses aspirations et ses préférences.
Actif par principe.
Et c'était important de le rappeler tout à fait. Voilà, c'est important, non ? Voilà. Eh bien, nous poursuivrons du coup à échanger et discuter autour de la table. Alors, nous n'oublierons quand même pas la profession et notamment toutes ces questions-là autour de ce plateau. Nous avions abordé cette notion de médiation avec Anne. Vous êtes responsable du service des publics, justement. Qu'est-ce qu'on entend par médiation et qu'est-ce qu'on entend par médiation au musée d'Evreux ?
Alors, la médiation, bah, du coup, c'est un mot un peu barbare, mais tout simplement pour expliquer, c'est faire le lien avec les objets qui sont dans le musée. Et puis bah, les gens qui viennent au musée, donc c'est créer du sens, du lien. Alors ça passe par plein de choses, ça passe par des visites, par des ateliers, par des documents qu'on produit aussi. Donc ça peut être des documents écrits, ça peut prendre plein de formes. Voilà, enfin, c'est créer du sens et du lien.
C'est peut-être rendre accessible des choses qui, sans explication peut-être, sans invitation, sans accompagnement, sont plus difficiles à percevoir.
Oui.
C'est proposer un accompagnement. La médiation, alors on voit bien, vous recevez énormément de classes, des scolaires notamment, tout au long de l'année. Avec des enfants, on voit bien, c'est assez simple de s'imaginer ce que peut être une médiation. Mais est-ce que la médiation, ça s'adresse à tout le monde aussi? Est-ce que un public adulte, un public âgé peut bénéficier justement de cette médiation?
Bien sûr. L'exemple de l'espace qu'on a créé, il s'adresse effectivement en priorité aux enfants, aux jeunes publics, mais c'est une invitation aux familles, aux adultes. On a vu à l'occasion des Journées du patrimoine des adultes investir l'espace, s'emparer des matériaux, construire leurs murs. Enfin, il y a pas de barrière d'âge en fait. Enfin, la médiation c'est pour tout le monde.
Cette notion de manipuler, faire, ça apporte à mieux comprendre finalement quand on prend des briques et qu'on construit avec les briques en carton, on comprend mieux peut-être comment ça fonctionnait et puis ça fait écho avec le mur gallo-romain juste derrière, ça fait.
Mais c'est qu'aujourd'hui on peut plus être que sur un rapport basé sur l'observation. On a besoin d'être dans l'expérimentation, dans la manipulation, ça passe du coup par le corps, par différents dispositifs, mais le musée n'est pas qu'un lieu d'observation justement. Faut laisser la place aux autres sens.
Allez-y.
Non, mais pas uniquement un lieu non plus où le savoir se transmet de manière verticale. Et on reçoit beaucoup de classes et c'est important aussi d'offrir au public scolaire une autre forme de transmission. Et puis en termes cognitifs, on sait bien que, mais ça, de toute façon, c'est appliqué aussi dans le cadre scolaire. Hein, en termes cognitifs, on sait bien que l'implication, la participation est très importante pour comprendre.
Justement, cette autre forme de transmission, on a le sentiment aussi, que ça questionne. On questionne beaucoup sur comment on va s'adresser à ces publics-là, comment on va les faire venir. C'est une question en l'occurrence qui vous anime continuellement de transmettre, mais de façon différente.
C'est la base, c'est la base de notre métier. Enfin, le musée, il vit pour les gens. Enfin,
j'allais même dire, c'est la base aussi, puisque Anne, responsable du service des publics, a répondu, mais c'est la base de nos métiers de conservateurs, puisque on travaille. Un musée, il a trois axes. Hein, c'est la conservation et l'enrichissement des collections, la conservation et puis la transmission au public. Mais quand on fait mais tout, en définitive, revient au public. Le patrimoine, il est ce qui nous est commun. On en partage la propriété. Donc, le fait que le public puisse comprendre et s'approprier, on s'approprie en comprenant, c'est très important. C'est vraiment la base. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Bref, je perds le fil.
On a encore un petit peu de temps pour pouvoir aborder tout ce qui pourra revenir.
Oui, moi je me posais en fait une question sur la médiation. Donc on est dans cette salle archéologique où on a un rempart qui est une œuvre, qui est un élément fixe, toujours le même, exposé ici. En lien avec la médiation, comment on interagit différemment sur un élément qui est toujours le même, exposé là depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'on met en route? Comment on invente, on innove, on met en place des choses? C'est une question, parce que là, on est sur une œuvre permanente.
Et un objet, on peut le voir de différentes manières. C'est certes un mur, mais c'est un mur fait avec certaines pierres. Il avait un usage particulier dans la ville, donc on peut l'interroger, justement. Ça devient un objet d'interrogation, de questionnement. Et qui permet d'être relié, mais c'est ce qu'on fait au quotidien, même dans les collections permanentes du musée, qui sont pour le coup des collections qu'on peut voir également tout au long de l'année. Et après, selon c'est difficile à expliquer, mais les ficelles qu'on peut tirer, on peut aborder les objets de différentes manières. Enfin,
je pose cette question-là par rapport à, voilà, pour le public qui dirait, oh ben je suis venue une fois dans la salle d'espace dédié aux enfants, et qu'est-ce que, voilà, après comment je m'en empare et différemment.
Alors, moi je voulais rebondir là-dessus pour justement évoquer, en fait, quand on a rouvert cette salle, évidemment, en fait, le fait d'avoir des vestiges en place aussi beaux, aussi remarquablement conservés, etc., ça nous a mis dans la direction de développer toute cette série d'ateliers autour du rempart. Mais l'idée à terme, ce n'est pas évidemment seulement parler du rempart, c'est parler d'Évreux gallo-romaines. Donc en exploitant énormément de choses qui ont été exhumées dans les années 80 et 90 par l'ancien service municipal, notamment je pense aux thermes sous la maternité, je pense à en fait l'idée c'est de d'appréhender toute une série de thèmes liés à la ville gallo-romaine, donc l'habitat privé, il y a eu une grande fouille menée rue de la Harpe, une autre rue Saint-Louis, on peut parler de l'hôpital gallo-romain, parler des termes, voilà, je l'ai dit, parler du théâtre. Évreux avait un théâtre qui n'existe quasiment plus dans le paysage, mais donc c'est évoquer tous ces aspects de la ville gallo-romaine dans cette salle qui s'y prête à merveille.
Oui, ce qu'on précise pour nos auditeurs, c'est vrai que Évreux est un fermant une richesse archéologique de l'époque gallo-romaine. En fait, c'est un vivier.
Alors, absolument, absolument, on a des vestiges sous nos pieds. C'est une grande ville gallo-romaine, une capitale de cité, qui s'est dotée de toute la parure monumentale, donc des grands thermes publics, un théâtre, je l'évoquais, un grand forum qui pourrait être rue de la petite cité. Donc, c'est une ville extrêmement riche d'un point de vue archéologique et notamment gallo-romain, évidemment.
Effectivement, on a beaucoup parlé de la salle dans laquelle on se trouve aujourd'hui, mais le musée, il y a plein d'espaces qui représentent différentes époques. Comment on fait pour créer du lien entre tous ces différents univers? Est-ce que c'est une force d'avoir finalement différents univers? Parce qu'on peut très bien imaginer justement que le public vient a priori pour un espace et puis se laisse finalement séduire aussi par les autres. Est-ce que au contraire, à certains moments, on se dit non, on va pas créer de lien et puis c'est pas grave, c'est l'objectif. Voilà, comment on travaille avec toute cette diversité en fait de propositions.
De multiples manières, mais quoi qu'il en soit, le lien il est évident. Le lien il est le territoire, il est Évreux. Au fil du temps, Évreux et au-delà, un territoire plus large, il est dans la configuration actuelle de la muséographie qui date quand même des années 80 et qui est en cours de redéfinition actuellement. Hein, nous travaillons à la réécriture d'un nouveau musée, donc avec une histoire qui sera sur la base de l'histoire, qui sera d'une même histoire, mais qui sera sur la base de mêmes artefacts, mais qui sera raconté autrement. Donc ça, on verra ça plus tard, mais comment... voilà, le lien, c'est la ville, c'est le rapport au territoire. Alors après, nous avons des œuvres qui s'étalent, comme vous le savez, du paléolithique jusqu'au XXIe siècle, puisque l'une de nos caractéristiques aussi au Musée d'Évreux, c'est d'inviter... une fois par an, en règle générale, un artiste contemporain à venir dialoguer avec les collections dans le cadre d'une production, d'une création. Alors, le lien, après, nous, on le fait au quotidien avec la médiation, justement, avec notre programmation, avec l'établissement d'expositions temporaires. Et puis, justement, ce lien, ce regard d'artiste contemporain sur les collections archéologiques, hein, comme on l'a fait déjà plusieurs fois, ou sur les collections du 19e, c'est une autre forme de lien également. Mais dans la configuration actuelle, le musée présente les collections de manière chronologique, c'est-à-dire dans le temps. On commence ici... Le musée comporte 4 niveaux. Donc on commence ici au niveau du sol gallo-romain avec les collections d'archéologie, malheureusement qui aujourd'hui pour l'essentiel sont en réserve, au rez-de-chaussée avec les collections notamment médiévales et de la Renaissance, au premier étage comme vous le savez avec les collections 17-18e d'art ancien, peinture et art décoratif, et les collections 19e essentiellement peinture et 20e pour de la peinture également, au dernier étage. Donc c'est pareil, la collection, je suis peut-être un peu longue, mais je vais terminer avec ça, la collection 20e, pour nous, elle est essentielle, c'est-à-dire que vous savez qu'elle est, on a des œuvres représentatives des mouvements de l'abstraction de l'après-guerre, et dans la réécriture du discours qu'on va tenir aux visiteurs dans les années qui viennent, il n'est pas question de simplement montrer ces œuvres. Bon, elles sont, je rappelle qu'on a du Schneider, du Zaouki, du Hantaï, du Judith Riegel, etc., des grands noms de la peinture de l'après-guerre, mais on va la remettre en relation avec l'histoire de notre ville qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été reconstruite dans les années d'après-guerre, très très rapidement. Hein. Et puis, cette collection qui a été voulue par des politiques et un conservateur dans les années 80, par des politiques qui ont vécu la reconstruction de la ville, qui ont vécu aussi le traumatisme de la Seconde Guerre, et qui, de manière peut-être même inconsciente, mais en tout cas c'est notre travail à nous de justifier la présence de ces collections 20e, collections d'artistes qui ont réinventé une manière de peindre, réinventer tout un langage esthétique, artistique, une manière d'être au monde comme la littérature le fait, la musique le fait au même moment, alors que la ville d'Évreux, mais la France entière, enfin partie de la France du moins, celle qui a été détruite, est en reconstruction. Donc il y a un dialogue, une correspondance, une résonance à faire entre cette collection d'œuvres majeures, mais qui n'est pas, je veux dire, n'est pas Beaubourg. Hein. Mmh. Si les gens ils veulent aller voir de la peinture 20e, ils peuvent aller aussi à Beaubourg. Mais nous, on a notre épingle du jeu à tirer en relation avec le territoire.
Finalement, c'est une vraie ouverture de tous les possibles, cette diversité.
Absolument. Et c'est là que c'est merveilleux.
Et en médiation aussi, j'imagine que ça vous... Ça permet d'imaginer plein de dispositifs divers et variés. Et je voulais, moi, j'avais noté quelque chose parce que depuis tout à l'heure, on parle de faire venir le public dans le musée, ce qui est logique. Mais j'ai regardé un petit peu que vous proposiez aussi des ateliers hors les murs. Est-ce qu'il faut donc finalement sortir du musée pour y revenir?
Ça peut être effectivement une idée. Là, c'est un dispositif spécifique pour les scolaires, en fait, qui peuvent pas se déplacer sur Évreux. Donc, c'est effectivement une porte d'entrée, quelque part, en proposant d'accéder à des objets. Donc, ce sont les objets qui quittent le musée. Alors, ce sont essentiellement des animations autour de l'archéologie.
Ah oui, donc vous faites sortir des œuvres ou
des œuvres et des facsimilés. Voilà. C'est principalement des facsimilés, mais du coup qui permettent de manipuler un rapport plus proche, un rapport sensible aux objets. Voilà, donc là on expérimente. Enfin, ça fait partie de nos métiers aussi, hein, de tester, d'expérimenter. Et puis on sait très bien qu'à un moment donné, eh bien peut-être que ces jeunes reviendront au musée cette fois-ci dans une deuxième.
Oui, c'est ça, c'est une fois que le travail a été fait une première fois, c'est aussi se dire, c'est quasi des habitudes qui peuvent se prendre aussi, et puis c'est peut-être le premier contact, le premier lien qui a besoin d'être peut-être plus accompagné, ou en tout cas désacralisé, ou apporté à manipulation. Puis une fois que les habitudes sont prises, finalement, c'est une curiosité qui a été aiguisée, et en principe, il suffit de l'alimenter ensuite. Enfin, j'imagine, en tout cas, je l'espère, en tout cas. Je vous propose que nous fassions une seconde pause musicale et nous reviendrons juste après pour parler de la grande illusion.
oui, on applaudit Vanessa Wagner et Marie Vermelin qui interprétaient Mamerloi de Ravel. Alors c'est un choix musical qui fait du coup la transition avec le troisième plateau. Et
c'était un jeu à quatre mains sur le piano. Hein.
Exactement.
Voilà, je me permettais de préciser, Nathalie.
Oui. Et Ravel, parce que c'est un clin d'œil aussi à cette période de commémoration sur la Première Guerre mondiale, où on sait que Ravel a été aussi engagé, soldat. Et voilà, c'était une transition musicale trouvée par rapport à la thématique que nous allons vous présenter, notamment à l'exposition La Grande Illusion de Michel Aubry. Donc bonjour Michel, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau où vous allez donner à voir au public cette exposition à partir de 5 tableaux que vous avez choisi et exposé au musée. Alors quand j'ai regardé un peu pour préparer cette émission, Michel Aubry, sculpteur, mais musicien, collectionneur, interprète, cinéaste. Je regardais votre travail, j'ai trouvé que c'était un foisonnement de genres artistiques et de domaines artistiques que vous explorez à travers votre matière, qui n'est pas forcément une seule matière travaillée. Mais voilà, c'est un art. Je dirais que j'avais envie de vous présenter comme un artiste complet, plus qu'un sculpteur. Est-ce que ça vous irait ?
Ça m'irait. En même temps, c'est simplement un moyen de toucher à différentes questions, avec peut-être le médium le plus adapté, enfin au moment qui me paraît le plus adapté. Donc, c'est pas une volonté d'être, je sais pas, pluridisciplinaire. Mais plutôt de se poser la question à un moment face à une œuvre en création, en prototype ou éventuellement en recherche, de savoir pour moi ce qui est le médium le plus adapté et si c'est à un moment un essai avec un film ou une vidéo et qu'après ça devient une sculpture, c'est pas un problème, ça fait partie de la recherche, voilà. Donc évidemment, ce qu'on voit dans l'exposition, c'est l'aboutissement de ces questions avec des objets qui se sont stabilisés dans des formes sculpturales plutôt. Mais il y a aussi un petit film dont on va parler. Et ça fait partie d'un processus où il y a eu comme ça un mélange de tout un ensemble de techniques.
Alors cette exposition rentre dans les commémorations des 100 ans du premier conflit mondial, de la Première Guerre mondiale. C'est donc un sujet pour vous important, de cet élément de guerre, de cette thématique de guerre. Est-ce que c'est une commande spécifique faite par le musée d'Evreux ou est-ce que c'est une question important, primordial, que vous développez ou traitez dans votre œuvre.
C'est un peu le mixage de vos questions, c'est-à-dire qu'il s'agit évidemment du choix de Florence pour cette exposition en rapport avec les commémorations et aussi d'une partie très importante de mon travail. Donc, en rassemblant en effet la question de la commémoration et du 11 novembre, avec cette partie de mon travail, ça a fabriqué finalement cette exposition. Et peut-être cet assemblage un peu particulier qu'on peut voir dans la salle.
Justement, comment s'articule au bout d'un moment le travail entre la commande que Florence a proposée, vous, votre envie artistique, est-ce qu'il y a des échanges entre deux, les contraintes aussi liées au temps, à l'espace, à la thématique, peu importe. Comment s'organise du coup le travail entre le conservateur et l'artiste en fait ?
Alors, plutôt que commande, il s'agit d'un choix d'œuvre. C'est-à-dire que Florence a vu un peu dans mon travail qu'il y avait cette question de la Première Guerre mondiale qui était abordée sous plusieurs formes. Et il n'y a pas eu commande spécifique, mais plutôt choix. Et ce choix, évidemment, on l'a tous les deux retravailler. C'est une forme de discussion. Et c'est cette discussion qui aboutit à l'exposition.
C'est comme ça, Florence. Enfin, je ne sais pas si... Là, on a la vision de l'artiste.
Oui, bien
en
sûr,
fait,
c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, il y avait au moment où il fallait écrire les supports de communication, justement, il y a quelques jours, j'étais un peu troublée par le fait que, bien évidemment, nous avions choisi des œuvres, des pièces, comme on dit dans le jargon de l'art contemporain, en relation avec la Première Guerre mondiale, mais qui est importante dans le travail de Michel, bien sûr, et c'est pour ça que on est allé le chercher. Mais je souhaitais pas qu'il y ait de confusion, c'est-à-dire que Michel n'oriente pas son travail uniquement ni sur la guerre, ni sur la Première Guerre mondiale. Cette exposition n'est pas non plus une rétrospective Michel Aubry. Donc il y avait une subtilité à trouver pour que le public ne s'y trompe pas non plus et qu'on soit aussi au plus respectueux de l'œuvre de Michel Aubry, tout simplement. Ça paraît peu de choses, mais c'est vrai que c'était un petit peu troublant. Voilà. Et après, il y a des aspects pratiques de savoir si la tapisserie, puisqu'il y a une tapisserie aussi importante qui est prêtée par le Mobilier National, une tapisserie, peut-être que Michel voudra en dire un mot, ça serait bien. Voilà, savoir si elle était disponible ou pas. Puis après, tout simplement, des questions de contraintes d'espace, hein, puisque l'espace est contraint aussi.
Oui, justement, peut-être qu'on peut aller à l'intérieur de ces propositions choisies, parce qu'elles sont exposées au quatrième, tout là-haut, au troisième étage du musée. Donc, c'est cette mise après, tout est scénographié à l'intérieur de cet espace-là. On ne va pas tout dévoiler, peut-être, mais quand même expliquer, enfin, peut-être, choisir de présenter chacun ou de dire un mot sur ces propositions-là, ce lien entre elles. Je sais pas, Michel Aubry, si je vous dis sur voilà le bouclier des guetteurs ou la tapisserie, enfin d'aller un petit peu plus à l'intérieur de votre travail sur ces quatre propositions et notamment moi quand je suis rentrée, ce qui m'a interpellée, c'était cette tapisserie et cette cartographie qui poser un espace qui est indiqué comme une sorte de frontière et voilà, puis après on passait à du volume et après une exposition et après à quelque chose d'une installation plutôt musicale et sonore. Enfin voilà, je trouvais que ça faisait appel à différents sens en fait du spectateur et de la personne du public qui vient voir votre exposition. Je ne sais pas si vous avez envie d'aller un petit peu plus à l'intérieur de ces propositions.
Oui, je peux détailler certaines des propositions en effet, mais c'est surtout se mettre dans un état d'esprit ou un état de regard qui fait qu'à un moment il y a des liens, évidemment. Il y a des liens clairs. L'Alsace, par exemple, c'est peut-être aussi une des choses, je m'en suis rendu compte a posteriori, finalement, qui relie quasiment toutes les pièces de cette exposition. Mais ces liens, comme le lien à l'archéologie, par exemple, dont on a parlé ces jours derniers, sont venus a posteriori. C'est intéressant, c'est de se dire que dans ce dont on parlait avant, qui était un choix, il y a un choix qui est, à mon avis, assez instinctif. Et ensuite, se dessinent des choses. Alors, en effet, rentrer dans le détail, cette tapisserie, c'est classiquement les commandes du Mobilier National, des Gobelins, qui commandent aux artistes des cartons. Donc, c'est une très belle aventure, parce que c'est une tapisserie qui a mis 10 ans à être tissée. C'est un travail énorme. Et donc, qui n'avait pas du tout été envisagé pour les commémorations. Voilà, c'était un travail que je menais depuis des années. Quand il y a eu cette commande, j'ai décidé d'en faire donc un carton pour une tapisserie parce que c'est un état d'un champ de bataille en Alsace que j'ai entièrement reconstruit à partir de photographies aériennes. depuis quasiment la naissance de la photographie aérienne pendant la Première Guerre mondiale, justement. C'est en lien avec le film de Jean Renoir, parce que pour ceux qui l'ont vu, La Grande Illusion commence par une reconnaissance aérienne. Et les photographies aériennes de 1916 sont les premières à apparaître pour la construction et pour le dessin de la tapisserie, jusqu'à une photo assez récente en couleur qui représente par l'IGN le même site. Et donc, finalement, c'est peut-être bien de rentrer aussi par cette tapisserie dans l'ensemble de l'exposition, parce que elle a été construite un peu à l'image de mon travail, de toutes ces strates de recherche, des recherches autour de l'état d'un champ de bataille en transformation pendant la Première Guerre mondiale, son état d'abandon juste après la guerre, la construction d'un monument national en 1920, ensuite un reboisement, mais à l'état pas naturel réellement, mais disons une forêt pionnière qui s'est installée jusqu'à l'état actuel qu'on peut visiter en ce moment. Cette forêt qui a bougé depuis la Première Guerre mondiale et qui est toujours en mouvement finalement.
Alors, on va peut-être faire un tour de l'installation pour le coup, mais il y a des liens qui me viendront et qui, je pense, feront le lien aussi avec toutes ces installations. Effectivement, rentrer par la tapisserie et ensuite, si on poursuit par le même mur, là, on va faire une visite de piétons dans l'espace. On retrouve après des choses qui sont peut-être moins évidentes à appréhender, en tout cas au premier regard. Il y a notamment un grand manteau avec les visons intérieurs et les scarabées placés et qui propose du coup la suite du parcours si on est passé par la tapisserie. Quelques mots éventuellement aussi sur ces choix et sur ce parcours éventuellement. Peut-être que je le prends dans le mauvais sens d'ailleurs.
Oh non, il n'y a pas... Par exemple, voilà. Formidable. La promenade, finalement, dans une exposition, c'est quelque chose de très libre. Enfin, en tout cas, moi, je pratique ça. Je vais d'œuvre en œuvre dans les musées.
Sans un ordre particulier.
C'est très difficile pour moi d'imaginer, justement, des circuits. Mais en effet, on peut passer de ce travail textile qui est la tapisserie à un autre objet textile qui est le manteau, qui est la reconstruction, on pourrait dire, d'une certaine manière, puisqu'on va parler aussi de répliqueur, enfin répliquer, reconstruire, reconstituer du manteau d'un écrivain très controversé, hein, c'est Ernst Jünger, très controversé, non pas pour sa participation à la Première Guerre mondiale, où il a été très connu aussi par son livre Orage d'acier, donc qui a aussi été un objet littéraire marquant de l'après-guerre. Mais cet écrivain a continué à être officier et a aussi été officier pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ce personnage écrivain qui a vécu jusqu'il y a assez peu de temps d'ailleurs, qui est un témoin très important par ses journaux de guerre de la Première Guerre mondiale, avait aussi une passion pour les insectes, pour l'entomologie. Et donc, un écrivain, un guerrier, un passionné de la nature. Et ce personnage m'a intéressé parce qu'il pose dans un manteau, pendant la Première Guerre mondiale, très jeune, un manteau qui est entièrement fourré de fourrure assez luxueuse. Donc j'ai reconnu là certains personnages que je ferai apparaître aussi un peu dans mes différentes œuvres, comme Erich von Stroheim, par exemple, grand inventeur de costumes. Et Et un artiste comme Joseph Beuys aussi, qui aimait bien poser dans un manteau fourré, ou alors j'ai refait aussi le manteau d'Albrecht Dürer, qui est aussi un autoportrait d'Albrecht Dürer, où on voulait un manteau avec cette fourrure. Et il m'a semblé qu'en effet, il s'inscrivait dans une tradition d'une sorte d'artiste qui se montre dans un costume qui lui est propre et qui lui sert d'une certaine manière de carapace, comme ces insectes qu'il aimait collecter. Voilà, donc ce manteau raconte un peu cette histoire un peu étonnante, comme ça, de l'écrivain pris dans la guerre, et dans une situation tout à fait étrange, et qui continue à écrire, et qui continue à s'intéresser aux insectes, et qui continue à s'intéresser à la nature jusqu'à la fin de sa vie.
Cécile, oui.
Pardon, il y avait, alors là, de manière plus générale, il y a un élément qui revient dans l'exposition, qui sont les roseaux, et qui revient aussi même dans d'autres œuvres, dans plusieurs de vos œuvres. Ça va être très basique hein, comme question, pourquoi du coup intégrer le roseau Et peut-être qu'il n'y a d'ailleurs pas de raison, mais moi, je me suis posé la question, en fait, en découvrant l'exposition, puis en regardant un peu aussi d'autres œuvres. Voilà.
Non, il y a des raisons, il n'y a pas de problème. Vous avez bien fait de vous poser la question. Mais en effet, peu présent dans cet accrochage, mais ils construisent une énorme partie de mon travail. C'est des roseaux qui viennent de Sardaigne. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années avec des musiciens en Sardaigne qui jouent un instrument qui s'appelle l'Eleonidas, qui est un instrument qui vient de l'Antiquité et qui est une survivance même de l'Antiquité, de l'Holos double de l'Antiquité. Et cet instrument qui se fait en Sardaigne exclusivement avec du roseau, des matières très simples, il y a un peu d'ajout de cire d'abeille, et puis voilà, du fil, et on arrive à se faire un instrument de musique qui devient un instrument de musique réellement savant. Hein. C'est un instrument de musique très complexe, avec un enseignement de la musique. Enfin, on est face à une véritable tradition musicale, avec un répertoire très, très complet. Et j'ai beaucoup travaillé avec des musiciens hein, directement en Sardaigne, avec leur savoir et leur savoir musical et leur savoir-faire de constructeur d'instruments. Et les roseaux sont finalement présents ou sous la forme directement de l'objet musical roseau avec son ange qui permet d'obtenir des notes de musique, ou alors, comme c'est sur les boucliers dans l'exposition, sous la forme du dessin de la colonne d'air du roseau, parce qu'un roseau de 80 cm ne va pas faire la même note qu'un roseau de 40 cm. Et voilà, il y a toute une construction de mon univers de sculpture qui vient de la manière dont la transcription musicale.
Il y a un lien très clair, il y a les pelles aussi, la sortie de roseaux, qui font tout de suite penser à des instruments de musique. Enfin, c'est très évident, en tout cas, enfin, moi c'est la perception en tout cas que j'en ai eue. Et on sent à travers chaque installation, chaque élément, ce rapport effectivement à la musique, qui vient trancher quand même avec la douceur de la musique, a priori. En tout cas, c'est la première sensation de la douceur de la musique, avec la dureté aussi des pièces utilisées, notamment des boucliers, des pelles qui, j'imagine, étaient l'équipement des soldats. Il y a ce côté, finalement, de la violence de la guerre avec cette douceur de la musique. En tout cas, c'est cette sensation que j'ai eue, moi, sur certaines pièces. Quoi. Enfin, cet opposé, finalement, qui se mariait. C'est une sensation, après. Non, j'imagine que chacun peut en avoir sa sensation.
C'est pas une sensation, c'est réellement un lien qui est très fort. Hein. Le lien entre la musique et la guerre, c'est un lien très puissant. Et en effet, la plupart de mes sculptures sont appareillées, justement, ou de roseaux, ou alors de, comme les pelles, par exemple, de perces, par exemple, dans les manches, qui les transforment en ces bourdons de cornemuse. C'est-à-dire qu'on peut réellement souffler dans les pelles et les jouer. Oui, tout à fait.
Donc, ce sont vous de avez véritables instruments. Ouais.
Florence, elle me prévient, il ne faut pas les souffler dans la pelle.
Non, nous allons gommer cette partie.
Tout va bien, nous la gommerons.
Nous sommes en direct.
Il y a une notion voilà, sur toutes les installations et sur toute l'exposition. Là, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Par exemple, les fameux boucliers. C'était la première fois que j'en voyais en fait, des boucliers de soldats. Et pour moi, il y a vraiment ce lien entre l'objet de mémoire, l'objet historique et l'extrapolation qui peut y en avoir. Je ne sais pas comment l'exprimer très clairement, mais en tout cas pour moi, sur chacun des objets proposés, il y a notamment cette grande table centrale sur laquelle des objets, alors il y a les objets militaires à proprement parler, il y a les outils du quotidien, il y a tous ces éléments-là posés, mais finalement par la construction, la mise en situation, il y a une dimension supérieure à celle de juste l'objet de mémoire en fait qui apparaît. Je suis pas très clair peut-être, mais là on touche à de la sensation, donc j'ai un peu de mal à l'exprimer hein, pour le coup. Mais il y a vraiment voilà l'objet de mémoire qui finalement est extrapolé à travers des sensations dans les installations. C'était l'objet aussi de toucher à cette mémoire de manière très directe.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a parlé de une manière de réinterpréter les questions autour de Junger. Le bouclier, pareil, c'est pour moi un objet extrêmement fort, mais un objet sur lequel j'ai vraiment eu envie d'intervenir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une puissance et un côté absurde aussi, mais qu'on comprend, hein, parce qu'il y a presque un retour au médiéval dans les débuts de la Première Guerre mondiale, où on imagine qu'on va pouvoir, avec des casques, des boucliers et d'autres protections métalliques, sauver des vies humaines, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et ces boucliers ont fini au-dessus des tranchées, finalement, comme des objets statiques. Mais ils avaient vraiment été prévus pour être transportés, ce qui est complètement dément, quoi. Et c'est cette folie meurtrière et folie des hommes, voilà, qui imaginent à un moment qu'on va pouvoir monter à l'assaut avec des boucliers en métal en 1915, qui m'a poussé justement à réfléchir à ces questions. Donc il s'agit en effet peut-être pour vous de sensations, mais il s'agit de sensations qui viennent aussi de la puissance d'évocation de certains de ces objets.
Oui, puis pour finir hein, sur votre exposition, moi je trouve que cette œuvre aussi, du coup là, elle fait sens par rapport au musée archéologique d'Evreux, où on voit toute cette collecte qui a été faite d'objets de la guerre. Enfin, on voit que ça a été rapporté, cherché, trouvé, collecté dans la terre pour être remis. Enfin, c'est une vraie question du coup que moi je me pose par rapport aussi à cette œuvre-là. On voit les restes d'objets dégradés par le temps. On a été les chercher et on a été les mettre en exposition sur cette ces objets qui racontaient quelque chose de la grande histoire et qui là nous racontent autre chose. Je ne sais pas. Moi, je trouve que ça fait vraiment sens de le poser ici, dans ce musée.
En tout cas, ces objets, en effet, ils ont un sens qui est devenu, un siècle après, extrêmement touchant finalement, puisque on se rend compte que, bon, à part les munitions, mais qui sont finalement une seule partie de ces ramassages, de ces collectages, c'est vraiment le quotidien. C'est la vie quotidienne qui est présente, qui est très présente. Et même une pelle, même si, quand il s'agit d'une pelle militaire, ça ramène à une forme de quotidien. C'est-à-dire qu'il y a la vie, il y a la guerre, il y a sauver sa vie. Et en même temps, un monde du quotidien, puisqu'il y a des arrosoirs et tous ces objets n'ont pas été ramassés au hasard. Enfin, je les ai vraiment trouvés sur des champs de bataille et il y avait vraiment des arrosoirs, un râteau. Enfin, voilà. Et c'est ce quotidien-là qui m'a fait penser à la manière dont tout ça tourne et devient nuageux. Enfin, un moment, en effet, la question du sentiment, finalement, face à cet assemblage, prend beaucoup de place. Voilà.
Bien, merci. Merci, Michel Aubry. L'émission tourne et le temps d'émission tourne. Je trouve que c'était un très beau préambule pour voilà, présenter et amener le public à venir voir cette exposition et dès demain où le vernissage a lieu. Voilà, c'est l'heure tourne, les minutes tournent.
J'avais une question quand même pour Florence. Jusqu'à quand pouvons-nous visiter cette exposition ? Parce qu'on dit on peut la voir dès demain.
Oui, on peut la voir dès demain
jusqu'à...
à 11h jusqu'au 13 janvier prochain.
Très bien. Eh bien voilà, on invite effectivement tout le monde à venir
soyez les bienvenus.
La visiter, s'y promener et découvrir ce dont on vient vous parler. Parce que forcément, parler d'une installation, d'une exposition en radio, c'est forcément l'outil le plus adapté, vous le comprenez bien.
Oui, et puis il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées. Il faut vraiment se plonger dans cette œuvre et puis venir au musée.
Eh bien...
Alors, on va un petit peu bousculer nos bonnes vieilles habitudes de l'agenda, car n'étant pas en studio et étant sur l'extérieur, on n'a pas tous nos petits outils qui nous facilitent la vie. Mais c'est bon, maintenant, je crois que les auditeurs ont pris l'habitude au moins d'utiliser Internet pour aller voir ce qui se passe dans les programmations dans le coin.
Oui, on vous fait confiance aussi pour avoir de bonnes idées de sortie hein, sur ce mois-là. Et moi, je vous propose de très vite passer à notre extrait de film qui clôt à chaque fois notre émission. Et bien sûr, nous avons choisi de vous proposer un extrait de La Grande Illusion de Jean Renoir qui met le point final à cette émission.
Et nous nous donnons rendez-vous pour le Scène de Vie Vite Scène du mois de décembre.
D'ici là, bonne sortie.
C'est pendant le commandant Kraut qui m'appelle que vous êtes ici sous l'autorité des lois allemandes. Station d'évasion, les sentinelles ont ordre de tirer sur tout officier surpris en dehors des limites.
D'un côté des enfants qui jouent aux soldats, et de l'autre des soldats qui jouent comme des enfants.
Alors, messieurs, par quoi désirez-vous commencer ? Poulet froid, pâté de foie gras aux truffes du Périgord ou macro mariné du capitaine Cook ?
Arrêtez les copains !
On a repris du Romont, et c'est eux-mêmes qui l'annoncent.
Romont !
Contre de tennis, ça joue au tennis. Un camp de prisonniers, ça sert à s'évader.
Je suis désolé de vous voir ici.
Ce qu'ils pensent, mon vieux, c'est pas la musique, c'est pas les instruments. C'est le bruit des pas.
You understand? That if you do not obey my order now, I'll have to shoot.
Here.